France Musique. Musicopolis. Mai 1823, Londres. La salle de concert, dite Argyle Rooms, se trouve dans un quartier relativement central de Londres, mais encore assez nouveau au début des années 1820. On vient tout juste de percer la nouvelle Regent Street, ce qui a eu pour effet la destruction de toute une série d'immeubles. Les Argyle Rooms ont été expropriées et reconstruites sur le côté est de la rue, au nord-ouest de Argyle Place. C'est l'architecte John Nash qui a dessiné le bâtiment, avec notamment un balcon soutenu par 8 cariatides, que les méchantes langues disent lourdes et gauches. Les commanditaires de la salle sont les membres d'une association, The Royal Harmonic Institution, institution harmonique royale, qui édite des partitions à bas prix et qui propose un certain nombre d'événements. Quelques musiciens célèbres viennent s'y produire au fil des années. Spohr, Moscheles, plus tard Weber et Mendelssohn. Le 5 mai 1823, c'est là que Frédéric Kalkbrenner joue son premier concerto pour piano. Voici presque 10 ans que Frédéric Kalkbrenner est installé à Londres et qu'il a fait la conquête des Londoniens, parmi lesquels de nombreuses londoniennes. Entrons dans la salle des Argyle Rooms pour le regarder. Selon Karl Dume, qui écrit une notice biographique sur lui quelques années plus tard, il est beau, bien fait, d'une éducation brillante, d'un facile accès et d'un esprit excessivement remarquable. Quant à la comtesse de Bassanville, pas tout à fait d'accord, elle précise « Son physique plaisait, quoiqu'il ne fût pas beau. Mais une distinction extrême et une tenue parfaite remplaçaient avec avantage ce qui lui avait été refusé du côté de la beauté. » Non seulement Frédéric Kalkbrenner est bien de sa personne, mais il a aussi reçu une éducation très raffinée et complète. Né en Prusse en 1785, il a vécu avec ses parents d'abord à Berlin, cour francophone, où sont arrivés bientôt de nombreux exilés français de la Révolution. Frédéric a reçu ses premières leçons de son père, musicien et chef d'orchestre d'opéra. Très précoce, le petit garçon jouait dès l'âge de 6 ans devant la reine de Prusse. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails, mais dans les grandes lignes, on peut dire que ses parents ont entrepris un grand voyage qui a permis à l'enfant de pratiquer plusieurs langues et de faire pas mal de rencontres. Beethoven à Dresde, Haydn à Vienne, Cimarosa et Paisiello à Naples. Enfin, ils arrivent à Paris, leur destination finale, où la famille s'installe, et l'adolescent entre au très nouveau conservatoire. Thank you. Au Conservatoire de Paris, le jeune Frédéric Kalkbrenner obtient illico presto ses premiers prix en piano et en harmonie, classe où il a eu pour maître Charles-Simon Cattel. Il a 16 ans, il se dissipe un peu, il sort beaucoup. Et pour qu'il cesse de perdre son temps, son père l'envoie poursuivre ses études à Vienne, où Haydn, à son tour, l'envoie reprendre les bases de l'écriture musicale chez Albrechtsberger, champion de la théorie et du contrepoint, chez qui Beethoven lui-même a fait de fructueuses études. Le jeune Kalkbrenner travaille beaucoup, mais 3 ans plus tard, on rapporte à son père qu'il fréquente une dame. Son père le rapatrie à Paris. Après la mort de ses parents et avec une certaine fortune héritée de sa mère, le jeune Kalkbrenner achète une propriété à la campagne et il se retire pour se consacrer à l'agriculture entre un exercice de piano et une composition. En 1814, il décide d'aller tenter sa chance en Angleterre. Il se rend chez le directeur des concerts de la ville de Bath, ville thermale très prisée de la bonne société. Son biographe raconte la scène. Monsieur H, le directeur des grands concerts, lui demanda de quel instrument il jouait. « Du piano », répondit Kalkbrenner. « Tant pis », reprit Monsieur H, « je vous plains, car cet instrument est ici tellement cultivé que les petites filles en jouent mieux que les premiers artistes du continent. » « Ce que vous me dites là, repartit Kalkbrenner, me réjouit fort. Jusqu'ici, c'est moi qui ai toujours enseigné aux jeunes filles. Et j'avoue que je serais plus que charmée aujourd'hui d'en recevoir des leçons à mon tour. » Après le premier concert de Kalkbrenner à Bath, le directeur des concerts a changé de langage et bientôt le jeune homme, il a 29 ans, devient la coqueluche de la bonne société de la ville. On s'empresse à ses concerts et les jeunes filles veulent toutes prendre des leçons avec lui, des leçons qu'il se fait payer fort cher, au poids de l'or, écrit son biographe. Thank you. Une fois la saison de Bath terminée, lors de sa première année en Angleterre, Kalkbrenner s'en vient à Londres, où l'a précédé sa nouvelle renommée auprès de la bonne société. Au printemps suivant, le jeune Camille Pleyel, en visite dans la capitale anglaise, peut écrire à ses parents « Kalkbrenner est en grande faveur ici. Il éclipse même Kramer. Il y a une terrible jalousie entre eux et aussi avec Chris. J'espère rester en bon terme avec tous les trois. » Oui, c'est que le petit monde musical se bat pour les faveurs des salons londoniens, pour se faire entendre et pour donner des leçons. Lorsque Camille Pleyel est arrivée à Londres, Kramer l'a assuré qu'il était facile de trouver des élèves, mais que surtout, il fallait se faire payer pas moins d'une guinée, parce que c'est le prix que demandent Kalkbrenner et Rhys, et qu'ici, on est jugé davantage sur le prix demandé que sur son véritable talent artistique. Une fois bien installé à Londres, avec une nombreuse clientèle de qualité pour ses leçons, ayant développé sa propre méthode d'enseignement du piano, Kalkbrenner a l'idée de prendre en apprentissage trois jeunes gens auxquels il communique sa méthode. Jeunes gens qui vont devenir ses assistants. C'est ainsi qu'il réussit à diriger les études musicales de plusieurs pensionnats de la ville. C'est ainsi également qu'il peut passer la moitié de l'année dans sa propriété française, près de Montargis. Là, il travaille son piano et il compose tranquillement, pendant que sa fortune s'accroît à Londres, où il revient ensuite inspecter les pensionnats. Dans le magazine musical trimestriel de 1823, on trouve la recension des dernières publications musicales, parmi lesquelles le grand concerto pour pianoforte de Frédéric Kalkbrenner. Désirant comparer cette nouveauté de l'art pianistique avec de précédentes œuvres du même genre, le journaliste se tourne vers les concertos de Dussek. La différence, écrit-il, est absolument incroyable. Lors de leur parution, Dussek est mort en 1812, ces concertos étaient très exigeants. Mais aujourd'hui, les trois quarts des enfants qui ont passé l'autre jour l'examen d'entrée à la Royal Academy sont capables de les jouer de manière crédible. Alors que très peu de personnes pourraient en faire autant de celui de M. Kalkbrenner. Pas une demi-douzaine dans le pays. Le critique affirme que s'il est difficile de dire exactement où sont les limites de l'exécution, du moins on atteint ici le nec plus ultra. Et il doit admettre que beaucoup d'adresse et de science ont été nécessaires pour accompagner cette révolution dans le style. Le critique du magazine musical trimestriel reste absolument baba, pourrait-on dire, devant la virtuosité déployée par Kalkbrenner dans son grand concerto pour piano forte. Il décrit méthodiquement tout le déroulement de l'œuvre. Pour la fin du premier mouvement, par exemple, « Il est impossible de concevoir une conclusion plus brillante », écrit-il. « Tout ce qui peut exister de force d'imagination, de feu d'exécution, de connaissance des possibilités de l'instrument a été combiné pour la réaliser. Et l'effet n'est pas moins admirable qu'il est extraordinaire. » Dans l'adagio, le commentateur souligne tout ce que l'interprète doit déployer comme délicatesse d'exécution, comme puissance d'expression, dans toutes ces ornementations pleines de fantaisie. Et s'il est légitime de penser qu'après tous les solos brillants du premier mouvement, il est impossible d'aller plus loin, on est encore époustouflé par le final, avec ses notes répétées, dans lequel l'auteur met une telle ardeur d'exécution. La technique pianistique de Kalkbrenner est célébrée pour son brillant, sa clarté, sa précision, l'élégance et la finesse de son attaque, avec un brin de coquetterie. Mais il est aussi critiqué par certains, comme Heine, poète à la langue acérée, qui le trouve pompeux et égotiste, avec son sourire embaumé et son aspect de gâteau au sucre confit. Un autre contemporain juge que son sourire banal et sa vanité bienveillante lui donnent une distinction suffisante et artificielle. Il est vrai que plus les années passent, plus il va devenir arrogant et imbu de lui-même. À côté de poètes du piano comme Chopin et Liszt, il va finir par paraître sans expression et sans profondeur, sacrifiant tout à la virtuosité. Mais pour le moment, il est encore adulé à Londres, où le critique du magazine musical trimestriel affirme qu'il est impossible de décrire le jeu de Kalkbrenner à la fin de son concerto. Cette musique demande une main pas comme les autres. Et de conclure, pour faire honneur à sa composition, M. Kalkbrenner doit la jouer lui-même. Un seul bras pouvait tendre l'arc d'Ulysse. Thank you. finale Vivace du concerto pour piano et orchestre en ré mineur opus 61 de Frédéric Kalkbrenner, Howard Shelley au piano et à la direction de l'Orchestre symphonique de Tasmanie. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Pierre Monteil pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.